Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Et aujourd'hui au programme, rien de moins que Jean-Sébastien Laliberté. Applaudissements s'il te plaît Jean-Sébastien.
C'est désorganique, la foule s'en vient, elle m'acclamera plus tard.
La foule s'en vient. Jean-Sébastien Laliberté pour sa chronique Moment Schadenfreude. Et nous, alors je fais confiance, à ce que tu vas nous dire et nous apprendre. Parce que...
Le faudrait-il?
Je ne sais pas.
Permets-moi d'en douter.
Alors en deuxième partie, Jean-Sébastien, nous recevons Geoffrey Gacquer, qui est le directeur artistique et co-directeur général d'Espace Libre, et qui va nous présenter la nouvelle programmation, qui a l'air d'être passionnante. Mais en attendant tout ça, on part en musique avec les colocs qui nous chantent « Bon lieu ».
Faut que je fasse mes paiements, amener ma blonde au restaurant, puis checker les numéros gagnants. Un bon lieu, un moyen job, je vais payer le loyer du mois passé. Je vais brancher le téléphone, les collecteurs vont pouvoir me retrouver. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Bon lieu, laisse-moi pas tomber. Bon lieu, un moyen job, prêt à commencer. L'échelle, je suis pas pire avec les chiffres, puis je sais me servir de ma cervelle. Bon lieu de moyen job, puis je te jure que je vais me caser. Je vais me lever tôt tous les matins, puis je te promets d'arrêter de chialer. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Bon lieu, laisse-moi pas te tomber. Mon chèque. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Bon lieu, laisse-moi pas tomber. Bon lieu de moyen job, n'importe laquelle ferait mon affaire. N'importe où, n'importe quand, pour me sortir de mon calvaire. Bon lieu de moyen job, j'envoie mon CV à Saint-Pierre. Parlez-y de moi si vous voulez un pourcentage sur mon salaire. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Bon lieu, laisse-moi pas tomber. Encore une fois. Puis si jamais
j'ai envie de te dire, Jean-Sébastien, oui. Est-ce qu'il y a un lien entre cette chanson et le début de ta chronique?
Ben, quelque peu. Les colocs, eux, se cherchaient une job. Et puis, si vous voulez avoir de l'inspiration, je suis ici pour vous en donner grâce à la liste de certains récipiendaires des prix Ig Nobel. Ces recherches scientifiques qui font d'abord rire, puis réfléchir les gens. Donc, certaines peuvent peut-être vous inspirer, mais vous ne serez peut-être pas nommé si vous refaites exactement la même chose que ces gens-là, par manque d'originalité, mais bon.
Ben oui, mais ça peut nous aiguiller sur une certaine idée que nous n'aurions pas eue au départ, c'est ça?
Exactement, voilà. Comme on peut parler de Troy Urtubise de North Bay en Ontario, qui a développé et ensuite testé personnellement une armure à l'épreuve des grizzlies. Il faut quand même avoir une assez bonne confiance en ses capacités d'ingénieur pour pouvoir sacrifier son corps ainsi à la science. Je ne suis pas certain que je me sacrifierai moi-même, mais bon.
Est-ce qu'il en est parti?
Et non, ben, non, contrairement au, contrairement au prix Darwin qui, qu'on remet aux personnes qui sont décédées, les prix Ig Nobel, les gens sont encore vivants. Alors, c'est une réussite pour lui,
c'est
mais quand même.
C'est une réussite pour lui quand même.
Le prix de la science de l'éducation en 1999 fut remis au Bureau de l'éducation de l'État du Kansas et du Colorado pour avoir indiqué que les enfants ne devraient plus croire à la théorie de l'évolution de Darwin, et tant qu'à ça, enlevons aussi du programme la théorie de la gravitation de Newton, la théorie de l'électromagnétisme de Faraday et Maxwell, et la théorie de Pasteur selon laquelle les microbes causent les maladies.
Oh là,
un pas en avant,
là, là.
25 pas en arrière.
Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais dans quel monde vivons-nous?
Dans un monde comme par exemple l'Afrique du Sud, où certaines personnes ont reçu un prix pour l'invention d'un système anti-vol d'automobile équipé d'un lance-flammes.
Oh, quelle horreur!
D'un côté, il faut tenir à son véhicule, d'un autre côté, les chances que le véhicule ne survive pas
oui,
à l'attaque
ça,
du lance-flammes.
Moi, c'est à ça que je pensais, encore plus qu'au voleur. Oh, quelle horreur, mon Dieu.
Allons toujours du côté des innovations. À New York et en Californie, deux personnes ont été récompensées pour leur système utilisant la force centrifuge pour aider les femmes à accoucher. La femme est donc attachée sur une table circulaire qui est mise en rotation à haute vitesse. Moi, je repense tout de suite à ces manèges qui nous font tourner sur place et qui... Ben, qui
non, mais ça va pas, non. Ben, moi, je suis une femme, j'ai accouché. Non, mais ça va pas.
Ben...
Mais ça va pas, non. Mais là, alors là, je suis outré.
On paye les gens pour tout, hein, vraiment. Tiens, parlant de se surévaluer en psychologie, deux hommes de l'Université de Cornell et de l'Université de l'Illinois ont fait une étude incapable et inconscient de l'être. Comment la difficulté de reconnaître sa propre incompétence mène à la surévaluation de soi?
Attends, tu peux me le répéter, s'il te plaît, parce que là, j'ai du mal à comprendre.
Comment la difficulté de reconnaître sa propre incompétence mène à une surévaluation de soi. Évidemment, quand on ne voit pas ses défauts, ça peut mener à ceci.
Ah, il est toujours plus facile de le voir dans l'œil de l'autre.
Mais oui. Restons ici même à Montréal avec un certain monsieur Peter Bars de l'Université McGill qui a fait un rapport médical sur l'histoire des blessures dues à des chutes de noix de coco. Donc, répertorier à l'échelle de la planète les blessures qui ont été causées par des noix de coco qui tombent de l'arbre.
Comment te dire, Jean-Sébastien? J'ai à la fois envie de rire, puis j'ai sentiment de rire jaune, parce que avec le monde qu'il y a sur Terre aujourd'hui, on paye des gens pour faire des études comme ça. Mais attends, c'est...
Et la prochaine bat possiblement ça. Un homme de l'Université du Massachusetts a répondu en partie à la question qu'on se demande sans doute toutes. Pourquoi les rideaux de douche se gonflent-ils vers l'intérieur?
Ah oui, elle est pire. Elle est pire.
Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'a qu'une réponse partielle. Donc non seulement il a étudié, mais il n'a pas pu avoir le fin mot de l'histoire. La prochaine, cependant, est quand même fort intéressante, mais surtout utile.
Attends, avant de dire la dernière, c'est payé. Qui est-ce qui fournit le... C'est les gouvernements qui fournissent les fonds, on est d'accord? Changez
des...
tous les gouvernements! Mais changez-les vite!
Ben, dans certaines universités qui sont privées, c'est soit les dons des riches mécènes ou encore ce sont les frais d'études sont très très chers.
Mais donne aux gens qui ont faim, aide à construire des écoles, fait des choses quoi.
Ben,
enfin bref.
Grâce à des gens comme ça, on a pu avoir l'invention de sous-vêtements étanches équipés d'un charbon supprimant les mauvaises odeurs de gaz avant qu'ils ne s'échappent. Déjà là, on est dans le plus concret. Pas nécessairement dans l'essentiel ou dans l'utile, mais tout de même.
Oh mon Dieu!
Et toujours dans les études mais pourquoi donc investir de l'argent pour étudier ça? Des hommes de l'Université du Michigan et de Colombie-Britannique, donc une étude, on peut dire, internationale rendue là, qui ont comme conclusion selon laquelle les gens trouvent un moyen de reporter leur propre mort si cela peut leur accorder une diminution d'impôts pour les successions.
J'ai pas tout compris.
Donc,
tu repousses la date de ta mort. Tu es mort, mais tu fais repousser la date de ta mort?
Ben, évidemment, on ne parle pas des morts accidentelles, mais disons des gens qui sont malades ou en fin de vie seraient capables de repousser le moment de leur mort pour que ça soit avantageux fiscalement pour leurs héritiers. Non seulement quelqu'un s'est posé la question, mais quelqu'un a jugé utile d'analyser et a pu déterminer que, apparemment, oui, certaines personnes font ça. Je ne sais quoi en dire.
Ben écoute, tu me laisses... à la fois, j'ai envie de rire, et puis à la fois, je trouve ça tragique, mais vraiment tragique, quoi. Dans un monde où on a tellement besoin d'entraide, payer des gens pour ce genre de choses, ça me démonte. Non, bref, je veux pas gâcher un truc, la dernière. Allons-y, excuse-moi, Jean-Sébastien.
Si seulement c'était la dernière. Non, il en reste et il en reste. En astrophysique, des gens ont découvert que les trous noirs remplissent toutes les conditions techniques pour abriter l'enfer. Je savais pas qu'il y avait des conditions techniques à respecter, mais bon.
Est-ce que l'enfer existe?
Ben, si oui, possiblement que c'est dans un trou noir.
Ils l'ont prouvé? C'est prouvé?
Ben, je sais pas s'ils sont allés dans un trou noir eux-mêmes pour faire le test.
Non, mais est-ce que c'est prouvé déjà à la base que l'enfer existe? Et qu'est-ce que c'est que l'enfer? Chacun a son propre enfer sur cette terre, non? Bon, enfin, on ne répondra pas pour l'instant. Donc...
Allons-y d'une petite dernière, le temps ensuite de digérer.
Avant la musique, ouais.
En technologie, conjointement décerné à John Keo en Australie et au bureau australien des brevets, parce que monsieur a réussi, en 2001, à breveter la roue.
Pardon?
En 2001, un Australien a déposé un brevet pour l'invention de la roue. Et le bureau australien des brevets lui a accordé un brevet.
La roue. Non, mais là-dessus, moi, j'ai rien à dire ou tellement de choses à dire que je préfère qu'on parte en musique. Valérie Carpentier qui nous chante Monokini et Tsunami.
Une vague se prise ici, polygamie et martini. Encore ta voix, encore mes larmes. Je divague, les vagues meurent ici, mon okini. Que mes yeux.
Alors maintenant, on retourne avec toutes ces nouvelles qui me font rire jaune et grincer des dents en même temps.
Oui, à voir les yeux d'Arlette, je ne suis pas certain que j'ai envie de continuer ma chronique aujourd'hui.
Mais si, vas-y, fais-le.
C'est décourageant.
Non, pas du tout. J'admire le travail fait. Par contre, je trouve ça tellement... Enfin bon, il y a des mots que je ne peux pas dire au micro, donc.
Alors,
on continue.
Ma phrase précédente était assez décourageante. Arlette enchaîne en disant mais non, pas du tout. Alors je renchéris en disant en 2002, en biologie, des gens ont fait une étude sur le comportement nuptial des autruches vis-à-vis des humains dans des conditions agricoles en Grande-Bretagne. J'ai l'impression que c'est plein de mots collés ensemble qui
oui,
ne veulent rien
j'ai
dire,
pas
qui ne servent à rien.
Est-ce que l'autruche...
On étudie les comportements nuptials des autruches.
Mais ben, virgule?
Le comportement... Les autruches, lorsqu'elles sont en situation nuptiale, le comportement qu'elles ont vis-à-vis les humains qui sont près d'eux, dans des conditions agricoles, donc sur des terres d'élevage... Et on est en Grande-Bretagne, donc on est dans le très précis, je ne sais pas à grande échelle ce que signifie cette étude. Une qui est un peu plus universelle du côté de la physique. En Allemagne, on a réussi à démontrer l'application de la loi de la dégradation exponentielle à partir de la mousse de bière. C'est-à-dire que quelqu'un a fait une étude sérieuse et longue sur la mousse dans un verre de bière qui disparaît de façon exponentielle. Donc elle diminue de moitié. Puis de moitié, puis de moitié, jusqu'à temps qu'éventuellement, il n'en reste plus.
Presque plus.
Et toujours dans les recherches...
C'est absolument passionnant de savoir ça. Est-ce qu'il y a eu un résultat là-dessus?
Oui, ben c'est ça. La mousse de la bière disparaît, répond à cette loi-là, de façon exponentielle. Donc, elle diminue de façon mathématique.
Bon, alors expliquez-moi le lien avec la vie. Mais ce sera pour une autre émission.
Tiens, allons. Le prix de la paix en 2002 a été remis à 3 Japonais pour la promotion de la paix et de l'harmonie entre différentes espèces en inventant le Bilingual, une machine de traduction automatique entre les hommes et les chiens.
Et quelle était la traduction du côté du chien?
Je ne parle pas canin, donc je ne peux malheureusement pas affirmer si c'est une traduction.
Mais
si jamais
il pouvait parler, il dirait « Mais pauvre homme!
» Tiens, en médecine, un Anglais a fait une étude sur, et j'ouvre les guillemets, « l'asymétrie scrotale des hommes dans les statues anciennes ». Donc, je ne sais pas si on est en médecine ou en art. On est dans le néant, peut-être même.
Oh là là! Oh mon Dieu! Il faut qu'on sache les résultantes de tout ça.
Moi, je pose les questions. Moi, je sème la graine de curiosité qui vous donnera envie de faire vos recherches.
Oh mon Dieu, mon Dieu! Appelons un musée, s'il te plaît, pour savoir.
Alors tiens, un seul homme, un professeur de l'école d'affaires de Zickling à New York en littérature, a fait plus de 80 rapports détaillés sur des sujets divers et variés tels que quel pourcentage de jeunes portent des casquettes de baseball avec visière à l'arrière plutôt qu'à l'avant? Quel pourcentage de piétons portent des chaussures de sport qui sont blanches plutôt que d'une autre couleur? Quel pourcentage de nageurs boivent la tasse du côté peu profond d'une piscine plutôt que du côté profond? Quel pourcentage d'automobilistes s'arrêtent presque, mais pas complètement, à un stop? Quel pourcentage de banlieusards portent des attachés-caisses? Quel pourcentage de clients excèdent exprès le nombre d'articles autorisés dans la file rapide au supermarché? Et quel pourcentage d'étudiants détestent le goût des choux de Bruxelles? On est dans des sondages qui, on se l'avoue, sont indispensables.
Peut-être que je vais mettre une pierre dans la mare, mais peut-être que c'est indispensable pour du flicage. On ne sait jamais.
Tiens, à Stockholm, un rapport qui, je ne vous en donne que le titre, les poulets préfèrent les beaux humains.
Les poulets préfèrent les beaux humains?
Les poulets, les volailles, les
poulets. Et comment ils jugent que t'es beau ou pas beau?
Il faut être un poulet pour le savoir. À Rotterdam, en biologie, un rapport sur le premier cas scientifiquement observé de, et je m'excuse, nécrophilie homosexuelle chez le canard.
Oh,
on étudie ces choses-là.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment te relancer la balle parce que c'est tellement écœurant.
Oui.
C'en est drôle, c'est vrai, mais c'est tellement écœurant, c'est tellement du grand n'importe quoi de faire des choses pareilles. Moi, il faut que j'arrive, tu m'as donné envie de rechercher qui paye pour ça, je veux le savoir et puis je vais le dire à l'antenne.
Tiens, je vous laisse
même
avec,
si ça n'a qu'avec moi.
Avec trois échantillons de la remise de prix Ig Nobel de 2005 pour la paix. Deux étudiants de l'université de Newcastle pour avoir étudié l'activité cérébrale d'une sauterelle pendant qu'elle regardait le film Star Wars. Ou encore en chimie à l'université du Minnesota pour avoir répondu à la question qu'on se pose sans doute toi et moi, Arlette. Les gens nagent-ils plus vite dans le sirop ou dans l'eau? Je m'imagine nager dans le sirop d'érable et puis... Alors, tiens, je vous fais grâce de tous les noms et toutes les universités pour la prochaine étude, mais sachez que ça va sur plusieurs continents, de Toronto à Genève, en passant par la France, l'Australie du Sud et beaucoup d'autres municipalités que je ne sais d'où ça provient. Mais bref, tous ces étudiants, professeurs et chercheurs de recherche australien du vin pour la classification des odeurs de 131 espèces de grenouilles lorsqu'elles sont stressées. Donc, répertorier et classer les odeurs de 131 espèces
D'accord.
de grenouilles. On les met en ordre, à savoir laquelle sent la moins mauvaise jusqu'à laquelle sent la moins bonne. C'est une étude internationale de Toronto, de Genève, de France, d'Australie du Sud, d'Adélaïde, du Japon et de je ne sais trop où encore.
Je suis sidérée. Alors, peut-être que d'un point de vue scientifique... C'est pour venir en aide aux grenouilles et pour les sauver. Je vais me laisser ce petit espace-là de
Donc si vous comptez sur moi pour vous redonner espoir en la foi humaine, c'est raté pour aujourd'hui.
Ah oui, complètement. Mais en tout cas, réussi pour ta chronique. Merci beaucoup. On part en musique avec OK Choral qui nous chante « Pourvu que la nuit soit longue ».
Ce soir, je sombre, doucement, je tombe dans l'excès, le club est full, les filles sont belles à tomber. Pourvu que la nuit
Alors avant qu'on rejoigne Geoffrey Gacquer, qui lui fait de belles choses intelligentes et profondes pour l'espace libre,
en contraste
avec ce qui est fait dans tout ce que tu nous as dit, comme on en parlait hors antenne, il est vrai, tu me faisais remarquer qu'on demande aux étudiants d'avoir un sujet qui n'a jamais été abordé avant. Mais quand même, Jean-Sébastien, je pense que entre les questions qui sont terre à terre et qui ont déjà été posées, mais sous un autre angle, il y a d'autres choses à demander que de demander à une petite bébête de regarder Star Wars et de savoir comment elle le prend.
Effectivement.
Bon, alors restez avec nous, on se rejoint tout de suite après ça.
Faramineux, avec votre animatrice Arlette Farah.
Par paresse, je fais rien comme il faut. Je coule le test, je mérite moins que zéro. Perdu dans mon espace, je me sens pas mieux qu'un jouet qui se casse. Sans caresse et sans matin chaud, on se blesse quand on se tourne le dos. Chacun dans son espace, c'est comme ça que les amours se cassent. D'en dire trop quand on se laisse jamais dire un mot. Chacun dans son espace, comment tu veux que le message passe? Tout le monde tire sur son bord, personne n'a jamais. Tombe pas souvent du ciel, puis c'est bien dur à garder. Si toi tu t'écoutes toi, et moi je sais même plus comment me rendre à toi.
Alors nous venons d'écouter Vincent Vallière qui nous chantait « Chacun dans son espace ». Et maintenant, on a le plaisir, comme annoncé en première partie d'émission, d'être avec Geoffrey Gacquer. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Alors on va dire que « Chacun dans son espace », espace libre évidemment.
Exact.
Merveilleux endroit où j'y ai vu des spectacles fabuleux. Voilà.
Oh, c'est gentil, merci.
je tenais à vous le dire. Donc on va parler de cette saison qui s'annonce, oui. 21-22, et qui commence, puisqu'on a le temps de parler, de discuter ensemble de toutes, oui, ces choses qui vont passer pendant la saison. Donc commençons avec Placido Mo Montréal.
Oui, donc Placido Mo Montréal, c'est notre spectacle de quartier de l'année. Puis le spectacle de quartier, c'est un projet qui existe depuis 2015 à Espace Libre. Ce sont des spectacles qui sont présentés annuellement, qui demandent la participation d'artistes professionnels qui travaillent avec des citoyens du quartier. Et cette année, on a Magda Puig Torres et Ricard Soler-Mayol, qui sont deux artistes d'origine catalane, qui crée un spectacle qui s'appelle Placido Mo Montréal, en partenariat avec le magazine L'Itinéraire, qui habite à quelques rues d'Espace Libre. Et en fait, c'est un spectacle déambulatoire qui va partir au départ d'Espace Libre, oui, où les spectateurs vont sillonner le quartier pour rentrer, on va dire, dans l'univers de personnes qui vivent en situation d'itinérance.
Alors, c'est extrêmement intéressant. En tout cas, ça va être hyper passionnant pour moi parce que j'habite dans le quartier d'Espace Libre.
Oh, OK.
Et donc, j'en vois, j'en connais même des itinérants qui sont là. Oui. Mais cette façon de passer par leur œil pour voir ce qui se passe dans un quartier qu'on fréquente souvent, ça oui, va être une super belle découverte.
Mais en fait, c'est ça le but aussi de l'exercice, on va dire, de la proposition artistique, c'est de nous faire regarder le quartier à travers les témoignages de personnes itinérantes qui ont été mises en contact avec les artistes grâce au magazine L'Itinéraire.
Oui.
Et donc, ce que vont vivre les spectateurs, c'est que chaque spectateur va être muni d'un casque d'écoute. Et dans ce casque d'écoute, ils vont être à peu près 20. Donc, d'un point de vue de la distanciation, il n'y a pas de problème. 20 par spectacle. Et donc, les personnes vont avoir un casque sur les oreilles et elles vont entendre les témoignages, les histoires de ces personnes qui vivent ou ont vécu l'itinérance. Et donc, ces personnes vont être guidées dans le quartier et les endroits où elles vont s'arrêter ont symboliquement un rapport avec leur existence ou avec certaines certains de leurs moments de vie, on va dire. Donc, ce qui fait que ça permet de donner un visage beaucoup plus humain à, oui, cette réalité d'itinérance. Et en même temps, comme vous disiez tout à l'heure, ça permet aussi aux spectateurs de regarder la ville et les rues que parfois ils arpentent d'un regard différent. Je donne un exemple, par exemple. La bibliothèque, pour vous et moi, n'a peut-être pas la même signification pour une personne itinérante, où c'est peut-être l'endroit en premier où ces personnes peuvent aller faire leur toilette, alors, oui, que nous, c'est l'endroit où on va aller chercher un livre. Ouais. Donc, c'est vraiment un spectacle humaniste, en fait.
Ah oui, mais tout à fait. J'ai hâte de voir ça, en tout cas.
Parfait.
Alors, passons après. Alors ça, c'était qui va se passer au mois de septembre. Alors, j'ai pas dit que ça va durer du 24 août au 5, oui, septembre. Donner les dates.
24 août au 15 septembre, c'est un spectacle déambulatoire au départ d'Espace Libre.
Alors après, une pièce que je trouve extrêmement intéressante quand vous en avez parlé, c'est Qui veut la peau d'Antigone, du,
exact,
7 au 25 septembre. Alors là,
oui,
je vous laisse
donc
nous
ça,
la raconter.
La pièce est montée par une compagnie qui s'appelle la compagnie La Sentinelle, et c'est une compagnie qui est dirigée par des artistes afro-descendants et qui explore donc le personnage, le mythe d'Antigone dans un spectacle qui s'appelle Qui veut la peau d'Antigone. Et donc Tatiana Zingabotao, Lynn Dentiste et Philippe Racine en fait revisitent ce mythe par le biais de textes qui, au fil des siècles, ont abordé l'histoire de cette femme qui luttait pour conserver sa dignité et celle de sa famille. Et donc, c'est un spectacle où on va, en fait, aborder cette histoire sous l'angle des droits humains, de la justice, du pouvoir. Et la particularité, en fait, et c'est ça qui est très beau dans cette particularité, dans ce spectacle-là, et qui est très fort aussi, c'est que le spectacle est présenté sous la forme d'un monologue pendant 3 semaines. Et chaque semaine, un nouvel interprète, oui, donc soit Tatiana, Lynn et Philippe, vont monter sur scène, vont montrer leur propre vision du mythe. Donc, ça va être à chaque fois une nouvelle mise en scène.
Ça, c'est bien.
Et le but, vraiment, dans cette histoire de raconter l'histoire à trois voix, c'est vraiment aussi pour essayer de montrer les chaînes de pensée des personnages et aussi de tenter de révéler aussi de la complexité qu'on a à se comprendre les uns les autres. Parce qu'un interprète et un autre ne va pas forcément avoir la même vision, la même compréhension de l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette proposition de Tatiana Lins et Philippe.
Parce que quand on les entend, c'est ça aussi, parce que chacun a une vision d'Antigone qui lui appartient, qui voit à travers ses filtres.
Oui.
Et c'est,
oui,
d'où l'intérêt de voir ce qu'ils en ont ressenti et comment ils l'ont...
Oui, et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans leur proposition, c'est que chacun amène aussi ses codes de la représentation. C'est-à-dire que Philippe est d'origine haïtienne, Tatiana est d'origine congolaise, et chacun vont apporter un peu de leur culture dans leur façon d'aborder cette histoire-là. Donc, ce qui est vraiment très, très intéressant, donc on va sortir d'un regard, on va dire, eurocentré, si on peut appeler ça comme ça, pour reparler un peu de façon pédante, eurocentré sur cette histoire. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir comment ces interprètes vont se réapproprier cette grande histoire qui a franchi des siècles, en fait, et qui est toujours d'actualité.
Eh oui, parce que, alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est si vous avez déjà vu Antigone, alors si vous l'avez jamais vu, bah, allez-y, bien sûr, mais si vous l'avez déjà vu, c'est de voir justement la différence, comment on peut sortir du regard qu'on a porté sur l'Antigone classique, qui a déjà été présenté, comment on l'a vécu, comment on l'a ressenti, et là, de le voir autrement.
C'est ça, avec le prisme, on va dire, de sa propre culture ou des cultures que eux, parce que c'est pas juste une culture, la culture multiple en fait qu'ils portent en eux, et c'est ça qui est très intéressant dans cette proposition là.
Alors après, on passe au mois d'octobre.
Oui.
Et là, du 12 octobre au 6 novembre, et c'est les morts. Alors oui. Ça, c'est moi j'ai vu le spectacle Animaux et bébés.
Oui.
Et donc, je suis très intriguée par ce que va être les morts.
Mais donc, là, vous me lancez une perche. En fait, les morts, c'est le troisième volet d'un triptyque qui a en effet commencé avec Animaux et bébés du Nouveau Théâtre Expérimental. Et donc, Alexis Martin et Daniel Brière voulaient se questionner, en fait, sur la présence en scène. Donc, ce qui fait qu'il y a quelques années, ils avaient monter un spectacle qui s'appelait Animaux, où il y avait de vrais animaux à espace libre sur scène tous les soirs. Oui. Il y a 2-3 ans, un petit peu avant la pandémie, ils avaient fait Bébés, où il y avait des vrais bébés. Et là, en fait, ils se questionnent sur la présence des morts. Comment est-ce qu'on peut convoquer le souvenir des morts? Oui. Comment est-ce qu'on peut convoquer la présence des morts? Et donc, c'est le but aussi du théâtre expérimental. Ils expérimentent, on va dire, sur scène, comment convier, nous faire imaginer, voir, ressentir cette présence de ces êtres avec qui on a vécu et qui nous ont quittés sous une certaine forme, mais qui sont encore présents en nous aujourd'hui. Et c'est ça le pari qu'ils s'attellent à faire. Et ça, c'est un spectacle qui s'appelle donc un monologue, en fait, d'Alexis Martin. C'est Alexis qui joue, c'est Daniel qui le met en scène. Et ça, c'est du 12 octobre au 6 novembre.
Alors, je suis très intriguée par ce spectacle. Parce que j'ai vu les deux précédents.
Oui.
Et j'attends avec impatience de voir comment nos morts vont s'amener sur scène.
Oui, puis et c'est un spectacle aussi qui est très personnel de la part d'Alexis, parce que eux-mêmes le disaient, parce qu'on a réalisé des vidéos pour parler de chacun des spectacles, et dans la vidéo qui parle des morts, Alexis et Daniel disaient, ils arrivent, eux, à un âge où la mort, en fait, des gens, que certaines personnes qu'ils côtoient commencent à être quelque chose d'un petit peu plus fréquent. Donc c'est d'apprendre à vivre aussi avec ce départ de ceux qui nous ont précédés. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans leur démarche, en fait. Puis c'est assez beau, en fait. C'est tout le cycle de la vie qu'ils représentent aussi. À la fois animal, les bébés, maintenant les morts. On parle vraiment de l'existence dans un terme très large.
Ah, alors maintenant, finissons l'année avec Roquebière, le documentaire.
Oui. Alors, Roquebière, le documentaire, comme vous dites, c'est important de dire qu'on finit l'année, c'est-à-dire qu'on finit juste avant les fêtes de fin d'année. C'est un spectacle où j'ai eu l'occasion de voir ce spectacle-là, une première étape de travail au ZH Festival en 2019. Et c'était de délire dans la salle parce que c'est un spectacle de drag king. Donc, et les drag kings, en fait, c'est le pendant, on va dire, féminin. De personnes, de femmes, en fait, qui personnifient, on va dire, des hommes comme les drag kings. Mmh. Et donc, c'est un spectacle qui est créé par Geneviève Labelle et Mélodie Noël-Rousseau de la compagnie Pleurer dans douche. Et elle, en fait, elle nous convie vraiment à un concert cabaret du personnage Roquebière, un drag king. Et à travers le personnage, c'est pour ça que ça s'appelle le documentaire, c'est que en parallèle des performances de Mélodie, qui est absolument extraordinaire quand elle personnifie le genre masculin, il y a un documentaire fait en lip-sync sur, on va dire, cette culture des drag kings. Et donc, ça vise aussi à aborder la question de la sous-représentation des femmes au sein de la communauté LGBTQ+, particulièrement, on va dire, dans l'univers drag king. Et donc, c'est vraiment un spectacle qui s'affirme vraiment d'un féminisme assumé, festif. C'est vraiment c'est un moment assez formidable et jouissif pour le spectateur, parce qu'on passe une soirée extraordinaire et en même temps on en apprend beaucoup plus sur cet univers, sur cette contre-culture et tout l'aspect politique qu'il y a derrière le mouvement drag.
Ah, ça va être... C'est vraiment passionnant ce que vous nous avez préparé. Alors maintenant passons à Bermude.
Oui, allez-y. En fait, juste pour rebondir sur ce que vous dites, en mettant les spectacles les uns à la suite des autres aussi, on s'est vraiment rendu compte que c'était vraiment une saison qui répondait vraiment à des grands enjeux, on va dire, actuels. Puis là, et c'est là où je fais le pont avec Bermude des Rides. Donc Bermude des Rides, c'est un spectacle de la compagnie System Kangourou, qui est dirigé par Anne-Marie Guilmen et Claudine Robillard. Et là, c'est un voyage sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'à la côte nord, pour aller à la rencontre de personnes qui ont choisi de vivre loin des grandes villes. Et donc c'est un spectacle qui est à cheval entre l'installation visuelle, le théâtre, le cinéma d'art, où il y a une rencontre improbable sur scène qui se fait entre un chasseur de trésors qui vit sur l'île d'Anticosti et un jeune écologiste montréalais que tout oppose, on va dire, mais ce qui les rassemble, en fait, leur point commun, c'est l'envie de vivre autrement. Donc c'est un spectacle à la fois qui parle de la nature, du rapport différent qu'on entretient lorsqu'on vit proche de la nature, et en même temps c'est un spectacle qui en filigrane parle aussi des défis écologiques en traversant ce fleuve Saint-Laurent. Pardon ?
Oui, non, je vous écoute, mais je voulais juste dire que en dehors du Saint-Laurent, moi quand j'ai lu, il me parle de la nouvelle vie qu'on doit faire. Aussi, c'est-à-dire qu'on est parti sur, faut laisser l'ancienne peau et vivre dans la nouvelle, faut s'organiser. Donc c'est juste ce lien-là que ça me montre. Voilà.
Parce que l'œuvre en effet, elle est inspirée du roman et du film de Claire Legendre. Et oui, effectivement, dans le spectacle aussi, il y a un cœur de jeunes. Disons les personnages aussi se demandent comment, avec les débris d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut reconstruire un monde et vivre différemment.
Ce sera la créativité.
Exact, tout à fait.
Ce sera la créativité. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Ensuite, on passe à la conjuration.
Oui. Donc la conjuration, c'est le second spectacle du Nouveau Théâtre Expérimental, le Nouveau Théâtre Expérimental qui est donc une compagnie en résidence à Espace Libre. Et donc là, en fait, là, Alexis Martin et Daniel Brière, ils s'emparent d'un sujet, on va dire, historique. Et ils abordent deux personnages, on va dire, deux grandes figures artistiques du siècle dernier, qui sont André Masson et Georges Bataille. Deux des plus grands penseurs et artistes du siècle dernier qui s'étaient réunis pour écrire et dessiner un manifeste à l'époque où le fascisme montait en Europe, un manifeste de la revue Acéphale. Et donc, ce qu'ils vont nous mettre sur scène, en fait, ce qu'ils vont nous présenter, c'est la création de ce pamphlet qui est en fait le cri du cœur de deux artistes qui, à l'époque, durant la montée du fascisme, étaient vraiment terrifiés à l'idée de voir disparaître, on va dire, la liberté humaine. Et ils sentaient déjà à cette époque qu'ils vivaient dans une société, une civilisation qui était vraiment de plus en plus basée sur l'accumulation et qui transformait de plus en plus le monde en gigantesque camp de travail. Et donc, le but d'Alexis et Daniel, c'est d'arriver à transposer sur scène la création donc de ce pamphlet. Donc, pamphlet qui a été écrit mais aussi dessiné, peint, et pour voir aussi comment ces gens s'étaient emparés à cette époque-là de leur actualité, c'est-à-dire cette montée du fascisme, comment lutter contre cette montée des extrêmes. Et sur scène, il va y avoir l'actrice Evelyne Rompré qui va les accompagner, parce que Alexis et Daniel vont jouer dans le spectacle.
Là vraiment conjuration, je trouve que il y a des choses qui me font penser qu'on est en plein dedans. Il faut aller voir aussi cette pièce, faut entendre ce qui s'est dit, faut Il faut apprendre à sortir de...
Oui,
de tout
apprendre,
ce qui se passe.
C'est ça. En fait, c'est vraiment une saison où, d'ailleurs, le titre qui résume la saison, c'est rendre visible, rendre audible, c'est-à-dire rendre visible aussi certaines personnes à qui on ne tend pas assez, on va dire, le micro ou la parole, et rendre visible aussi la réalité, mais évidemment transposer artistiquement, poétiquement. Mais c'est vraiment le but de cette saison, c'est d'essayer de parler d'aujourd'hui, en fait.
Oui,
vraiment,
ah oui, puis c'est...
au cœur des
là, vraiment, laissez-moi vous dire que j'étais pas encore dans la salle, mais d'après ce que je lis, c'est vraiment, ça va être ça. Dans les quelques minutes qui nous restent, on va parler des deux dernières aussi.
Oui,
allez-y,
oui,
vous vouliez dire...
Aussi, oui, en fait, juste peut-être dire aux auditeurs aussi que s'ils ont envie d'en savoir plus, qu'ils aillent sur notre nouveau site internet, parce qu'à la page de chacun des spectacles, il va y avoir une vidéo d'entrevue avec chacun des créateurs qui nous parlent vraiment de leur démarche artistique, et je pense que ça vaut vraiment le coup pour en savoir plus. Et donc c'est ça, les deux derniers spectacles de la saison. La blessure de Gabriel Lessard, où là on va parler d'éco-anxiété et de conflits générationnels, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'écologie, quels sont les conflits intergénérationnels qui arrivent, qui émergent, et ça c'est vraiment une comédie.
Mais ça, alors, ça c'est vraiment, oui.
Ça, c'est un truc à aller voir en famille si on s'entend bien.
Mais peut-être qu'on s'entend bien au moment de rentrer au théâtre et que quand on en sort, on s'engueule.
C'est ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'en parler. Et puis, on finit la saison avec un spectacle des productions Carmagnol, un spectacle vraiment festif. Carmagnol, c'est une compagnie de cirque contemporain, et le spectacle s'appelle Les Érotisseries, et c'est érotique et consensuel. Et ça, c'est un spectacle de cirque qui questionne en fait notre rapport à l'érotisme, notre rapport au corps. Et dans cette année et demie qu'on a passé à pas trop se toucher les uns les autres, eux réinsufflent, on va dire, de l'humanité et de la poésie dans cette rencontre des corps, en fait, ils essayent de faire tomber les frontières et d'aborder tout ce qui est tabou dans la sexualité, dans l'érotisme. Et ça, c'est un spectacle qui va avoir lieu du 3 au 21 mai, en espérant que le masque ne soit plus de rigueur à ce moment-là.
Oui.
Sinon, s'il est encore de rigueur, on va trouver, mais ça, ils vont le faire. Donc c'est ça, c'est vraiment un spectacle qui aborde en fait notre rapport au corps et à l'érotisme.
Ben, c'est bien parce qu'il aurait pu, qu'on vive cette époque ou qu'on ne la vive pas, être intéressant à faire, parce que c'est vraiment quelque chose qui est mis sous silence. Ou bien alors on parle des excès, ou bien on parle des déviances, mais l'érotisme en tant que tel, on n'en parle pas. Donc,
non, et la beauté de la chose, et je veux dire tout ce qu'il y a à partager et à découvrir, ben c'est ça qu'ils veulent, ils veulent essayer de nous insuffler.
Ah ben, je trouve ça formidable. Ça va être une belle saison. Merci beaucoup.
En tout cas, on croise les doigts, puis on espère que les gens seront au rendez-vous. Puis on a tout ce qu'il faut pour accueillir les gens de façon sécuritaire. On a vraiment hâte de retrouver les artistes sur scène et les spectateurs dans la salle.
Alors, pour mon dernier mot de la fin, je vais dire que, comme d'habitude, vous vous êtes fait plaisir dans le choix de ces spectacles.
On essaye de se faire plaisir. Et je me suis fait plaisir, oui. On s'est fait plaisir, et aussi le plaisir de la découverte de ce qu'on ne connaît pas.
Oui.
Ou de ce qu'on ne connaît pas assez. Donc, je dirais qu'il y a ce plaisir de la rencontre aussi, beaucoup, dans ce qui fait partie de l'ADN d'Espace Libre aussi. C'est vraiment un lieu très humain, et on a vraiment des propositions humanistes, encore une fois, cette saison.
Ah bah, ça va être une belle saison. Maintenant, on souhaite que ça dure suffisamment longtemps, chaque spectacle, pour qu'il y ait assez de spectateurs, parce qu'avec les histoires de sièges...
Oui, mais quoique là, en ce moment, on croise les doigts, il y a le passeport vaccinal, la distance a un petit peu diminué, donc là, on va pouvoir accueillir, en fonction des bulles, mettons, des gens quand ils arrivent en bulle, on va pouvoir accueillir entre 80 et 110 personnes, ce qui est quand même mieux que le 36-42 qu'on avait avant.
Oui,
on a quand même une salle qui est près de 200 places, mais entre 80 et 110, on commence quand même à, je veux dire, quand la salle est pleine, on n'a pas l'impression qu'elle est moitié vide non plus. Donc, voilà, mais on va prendre ce qu'on nous donne, mais on va tout faire pour pouvoir tout présenter.
Merci beaucoup, Geoffrey Gacquer. Ça a été un plaisir de vous recevoir.
Pour moi aussi, merci.
Au revoir.
Beaucoup. Au revoir.
Je passe devant la grille de l'école où j'attendais le soir mes pères. Il y a des journées de ciel gris qui s'étirent sur un drap rose. Il y a des poupées qui s'ennuient jour et nuit et qui prennent la pause. Il y a Beyoncé en poster, une poupée.
Alors on vient d'entendre Maëlle qui nous chantait le mot d'absence. Tu vois, cette émission, encore une fois, était superbe parce que grâce à toi, à ta chronique, on a vu le, j'ai envie de dire, le tréfonds de la bêtise humaine. Parce
oh oui,
que
on peut le dire
comme ça. Et en même temps, en recevant Geoffroy Gacquer, on a vu toute l'ouverture qu'il peut y avoir dans le milieu théâtral, tout ce qui peut être inspirant. Donc c'était bien.
Ça dépend comment on investit ses énergies et son temps.
Oui, alors je préfère les investir du côté du théâtre, tu t'en doutes un peu.
Mais effectivement, ça fait du bien de voir qu'il n'y a pas juste la bêtise humaine sur Terre.
Ah oui, oui, oui.
Ça nous donne un petit peu d'espoir.
Oui, rien que ça, et puis le fait de pouvoir, il est vrai, retourner au théâtre, et puis faire tout, avoir du plaisir. Et déjà, le premier spectacle qui arrive est d'aller suivre l'itinérance dans le quartier de Espace Libre. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous à demain. Merci beaucoup Jean-Sébastien Laliberté. Merci à Geoffroy Gacquer. Et puis à demain pour une nouvelle aventure. Waouh.